Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale élection régionale.
Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, une édition spéciale élection régionale et départementale. Le deuxième tour, vous le savez, c'est aujourd'hui et jusqu'à 13h. On va faire un point complet sur ce début de scrutin qui va permettre de désigner les exécutifs des 13 régions de la métropole, des 4 d'outre-mer, ainsi que ceux de 95 départements. Près de 48 millions de Français sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h. Scrutin qui a aussi une portée nationale, évidemment, à un an des présidentielles, même s'il ne semble pas avoir beaucoup passionné les électeurs, vous le savez. Lors du premier tour marqué dimanche dernier par une abstention record, eh bien, l'une des grandes questions, c'est la participation aujourd'hui. Sachez qu'à midi, elle était de 12,66%, c'est-à-dire en très très légère hausse par rapport à dimanche dernier, mais on peut dire quasi identique. Alors évidemment, on va commenter ce premier taux de participation à midi. Dans un instant, nous serons au ministère de l'Intérieur. On va aussi vous détailler tous les points chauds, les régions à surveiller de près. Avec nous, Adélaïde Zulfikar Pasic, bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes directrice des études chez BVA. On va vous retrouver dans quelques instants. On ira dans un bureau de vote de la région parisienne à Montreuil pour prendre la température sur le terrain de ce deuxième tour en Seine-Saint-Denis. On ira aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évidemment, la région qui attire tous les regards, la seule région d'ailleurs à proposer un duel aux électeurs entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. Nous irons dans la région Centre-Val de Loire avec du suspense autour d'une quadrangulaire, 4 candidats en lice. Mais il y a mieux encore. 5 candidats dans 2 régions. Alors dit-on quinquangulaire ou pentagulaire, il y a peut-être débat. En tout cas, nous irons en Bretagne où ils seront 5 candidats. Ce sera aussi le cas en Nouvelle-Aquitaine. L'actualité non politique de ce dimanche est avant tout sportive avec la deuxième étape du Tour de France à la Philippe en jaune. Nous serons sur la ligne de départ dans un instant. L'Euro de foot avec ce soir 18h Pays-Bas, République Tchèque, 21h Belgique, Portugal. Ce sera à suivre sur M6. Et parmi les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale, le Danemark qui est aujourd'hui sur un petit nuage. Les basketteuses de l'équipe de France, elles jouent ce soir pour être sur le toit de l'Europe. Dans l'actualité également, des consommateurs de crack visés par des tirs de mortier lancés par des jeunes. Illustration de l'impuissance des riverains du quartier Stalingrad pour obtenir le départ des toxicomanes. Et puis quelques ratés dans l'organisation du grand oral du bac. Constat dressé après une semaine d'épreuves.
Vincent Parisot,
RTL Midi, spécial élection régionale.
Allez, tout de suite, direction la place Beauvau à Paris, le ministère de l'Intérieur. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Vous nous rappelez le chiffre de la participation globale au niveau national à midi?
Eh bien, il est de 12,66%, un chiffre un peu meilleur que celui de la semaine dernière à la même heure, plus 0,44 points. En revanche, on est toujours très loin du taux de participation aux élections régionales de 2015 qui s'élevait à 19,59% il y a 6 ans à 12h. Dans le détail, c'est en Corse que l'on s'est le plus déplacé ce matin. 24,87% des électeurs avaient déjà voté à midi. Viennent ensuite la région PACA, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et tout en bas du tableau, c'est la région Île-de-France qui ferme la marche avec 8,59% de votants. Cela s'explique en partie par le fait qu'en région parisienne, les bureaux de vote fermeront leurs portes plus tard ce soir. Pour être complet, je vous précise que le ministère de l'Intérieur ne fournit que les taux de participation aux élections régionales et pas ceux des élections départementales, car on considère ici qu'un électeur qui s'est déplacé pour voter a participé aux 2 scrutins. Et je vous rappelle donc ce chiffre national, 12,66% de participation à midi, c'est 0,44 points de plus que la semaine dernière à la même heure.
Merci Guillaume Chiez, en direct du ministère de l'Intérieur, Adélaïde Zulfikar Pasic, je me tourne vers vous. Que nous dit ce chiffre brut tout d'abord de la participation? Il n'y a pas à cette heure-ci, le rebond que certains espéraient.
Effectivement, avec 12,6%, on est à peine à 0,6 points par rapport au premier tour. Donc, a priori, pas de réel sursaut démocratique dans les urnes. En revanche, potentiellement une légère hausse de la participation. Difficile de dire à cette heure-ci quelle sera l'ampleur de cette hausse. Ce qu'on sait, c'est que historiquement, depuis que les élections régionales se jouent à 2 tours, on a toujours enregistré une hausse de la participation entre le premier et le second tour. Et elle n'a pas toujours été visible à midi. En 2004, par exemple, à midi, on avait une participation inférieure supérieure à celle du premier tour. Donc voilà, léger rebond, gros rebond, en tout cas, a priori, pas un gros sursaut.
Voilà, attendons, soyons prudents, mais a priori, on devrait rester dans les mêmes eaux. Pour la ventilation, j'allais dire, par région, la région qui a le plus voté, c'est la Corse, mais la Corse, c'est particulier.
Oui, c'est traditionnel. On sait que ce sont des électeurs qui, globalement, se mobilisent davantage, qui ont des enjeux différents, puis on parle d'une région qui fait vraiment sens. C'est un territoire qui parle concrètement aux citoyens qui l'habitent, contrairement aux autres régions qui, parfois, se sont éloignées de cet échelon administratif.
Voilà, avec un exécutif territorial qui, effectivement, parle sans doute plus aux électeurs. La deuxième région qui a le plus voté, ça, c'est peut-être intéressant à souligner, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, c'est pas qui a le plus voté, qui a plus voté qu'au premier tour, de l'ordre de 2,5 points. Néanmoins, cette hausse de la participation entre les deux tours, elle est plus faible qu'en 2015, mais on voit quand même qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que c'est une région vers laquelle tous les regards se tournent. Il y a un enjeu, donc les électeurs se sont davantage mobilisés qu'au premier tour à 7h de la journée.
Oh, bah justement, tiens, on va aller à Marseille retrouver Hugo Hamelin. Bonjour Hugo.
Bonjour.
On se souvient la semaine dernière des couacs du début de la matinée, hein, puisque dans certains bureaux de vote, on n'avait pas pu ouvrir, 34 bureaux. Cette fois, tout s'est bien passé ?
Oui, absolument. Les 481 bureaux de vote de la cité phocéenne ont pu ouvrir normalement à 8 heures grâce au recrutement massif d'agents durant la semaine. Ça avait été anticipé, mais ça n'améliore pas vraiment le taux de participation, comme l'explique Ménade, l'un des assesseurs du bureau où je me trouve, juste à côté du Vieux-Port.
Les gens ne savent même pas qu'il y a deux votes. Ils viennent en votant qu'une fois. Jusqu'à que je leur rappelle pour leur dire qu'elle est départementale et les régionales.
Qu'est-ce que ça donne au niveau de la participation ?
Vraiment faible. Bah, je pense que ça va être pareil. On va atteindre les 30, allez, peut-être les 40% parce que ouais, c'est la finale, on va dire. Mais je pense que on a vraiment un taux faible.
16% de participation à midi pour la région PACA, c'est deux petits points de plus que la semaine dernière. Donc effectivement, il y a une amélioration, mais le sursaut démocratique n'a pas encore eu lieu, même si on croise ici, c'est vrai, des abstentionnistes du premier tour, comme Elisabeth, à qui j'ai demandé pourquoi elle avait fait le déplacement ce dimanche.
Parce qu'il y a urgence, il y a danger, donc je suis venue. Personne ne me plaît, mais je choisis le moins mauvais.
Voilà les électeurs marseillais qui auront jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.
Merci Hugo Hamelin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région vers laquelle tous les regards sont tournés, la seule à proposer un duel. Adélaïde, ça veut dire qu'on aura le nom du président de la région PACA à 20h ce soir ?
Très vraisemblablement oui, parce que c'est la seule région où il y a un duel, la situation est claire, donc à moins d'un résultat ultra serré, mais ce qui a priori peu probable, on saura à 20h quel sera le prochain président de la région.
Alors concrètement, vous le savez, 48 millions d'électeurs appelés aux urnes, deux enveloppes sauf à Paris, une pour les régionales, une pour les départementales, un processus sanitaire très strict. On va aller voir comment ça se passe en région parisienne, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Nerissa Emani, bonjour.
Bonjour.
Un sursaut de participation ou pas dans votre bureau ?
Alors oui, mais il est très faible. On est à 13,2% de participation ce midi contre 12,8% la semaine dernière. Il y a donc quelques nouveaux électeurs comme Lila, 20 ans. Elle était en voyage dimanche dernier, elle n'a pas voté.
Je pense que c'est un manque d'informations, un manque de temps. Je sais que c'est pas bien et que c'est pour ça que je vais voter pour le second tour.
Vous êtes renseignée du coup ?
Bien sûr, oui quand même.
Et à côté, sa mère qui l'accompagne n'a pas le même avis.
Moi, je n'ai pas voté, par déception. Au fil du temps, j'ai voté, et rien n'a jamais changé.
Et vous avez encore un peu d'espoir, quoi.
Oui, bien sûr, il faut. Et je suis pas forcément d'accord avec ma mère, et c'est un peu en éveil, et je me dis, second tour, il faut quand même aller voter, quoi.
Et cette forte abstention, ça met Elsa en colère. Cette habitante de Montreuil s'est toujours mobilisée.
J'ai mal pour la démocratie, j'ai mal pour la France, j'ai honte pour les Français. Je suis convaincue que le vote est fondamental pour la démocratie. Plus personne ne l'utilise, les gens râlent, et ils râlent alors qu'ils vont pas voter. Ils comprennent pas que la politique, ça peut être un acte quotidien de chacun.
Alors rappelons que la Seine-Saint-Denis est le département d'Île-de-France où la participation a été la plus faible la semaine dernière.
Voilà donc pour ce bureau de vote dans un bureau de Montreuil avec Nerissa Emani. Je vous rappelle la participation au niveau national, 12,66%, c'est-à-dire quasiment identique, en très légère hausse par rapport à celle de dimanche dernier. On va marquer une courte pause. Dans un instant, passer en revue l'actualité de ce dimanche avant de revenir dans quelques minutes à ce deuxième tour des régionales. A tout de suite sur RTL, il est 12h40.
RTL Midi. RTL Midi, édition spéciale élection régionale.
Vincent Parisot. RTL, Tour de France 2021.
Oui, parce que l'actualité, c'est aussi le cyclisme, le Tour de France. Le départ de la deuxième étape sera donné vers 13h30 de Perros-Guirec. Bonjour Mourad Djebbari.
Bonjour.
Avec un Julien Alaphilippe qui va pouvoir mesurer l'effet maillot jaune dans le public lors des premiers kilomètres.
Effectivement, avec une étape carte postale au départ de Perros-Guirec, le long de la côte de granit. Le début de cette étape sera un défilé, une déambulation pour le champion du monde, désormais maillot jaune, Julian Alaphilippe. Il va pouvoir parader, prendre un bain de foule, saluer ses supporters après son nouvel exploit hier. Pascal et Béatrice attendent le long des barrières pour le moment, le passage du maillot jaune.
Julien Alaphilippe, c'est un grand champion.
Ah, c'est pour ça, mais comme on habite ici, on s'est dit, on va quand même aller voir les coureurs de plus près quand même.
Dont un en particulier.
Le maillot jaune.
Une petite photo de Julien, vous avez votre portable à la main quand il va passer?
Ah ben bien sûr, ça c'est évident, si je peux. Parce que je ne sais pas si je vais être bien placé là, si. C'est un souvenir pour Perros.
On a vu il y a quelques minutes Chris Froome qui a lourdement chuté hier, mais qui sera bien au départ de cette étape. Mais on n'a toujours pas vu ce petit bout de tissu jaune. Après une double accélération comme il sait faire, Jérôme est toujours stupéfait par ce qu'il a vu hier.
Partir comme il est parti à 2 km, très peu de personnes auraient dit qu'il allait aller jusqu'au bout, et il est allé jusqu'au bout, et ça a été magnifique. Ah bon, je vais le voir, oui, voir Alaphilippe, c'est super bien. C'est un grand champion, mais je pense qu'aux Champs-Élysées, ils seront en jaune.
Mais les Champs-Élysées sont encore loin. Julien Alaphilippe va défendre cet après-midi son maillot jaune. Pour la petite histoire, il avait annoncé sa victoire hier, mais il avait aussi coché l'étape d'aujourd'hui. Réponse sur RTL, hors direct.
Merci Mourad Djebbari qui nous fait vivre sur RTL ce Tour de France avec évidemment Christian Olivier. Le Tour, c'est un point toutes les demi-heures sur RTL. Alors le sport, c'est aussi l'Euro de football au programme de ce dimanche. Belgique-Portugal à 21h, à suivre sur M6, et puis avant 18h, Pays-Bas-République tchèque. Hier soir, l'Italie s'est qualifiée pour les quarts de finale, mais difficilement, hein, vous le savez, dans les prolongations, 2-1 face à l'Autriche. Pour le Danemark, ça a été beaucoup plus facile face aux Gallois, un carton 4-0. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes à Copenhague pour RTL. C'est une très belle histoire pour le Danemark après la frayeur de l'accident cardiaque de Christian Eriksen.
Oui, et je peux vous dire qu'ici, la fête a duré toute la nuit. Vous avez encore ce matin, allez, un Danois sur trois qui porte le maillot de l'équipe nationale. C'est le cas de Christina qui me répond en se frottant les yeux avec les mains.
Yeah, of course. Of course. Yeah.
Bien sûr qu'on a fait la fête avec les enfants, les amis, à sauter, crier, rire, danser, chanter.
It seems so special for you. Ça a l'air tellement spécial pour vous.
C'est un conte de fées qu'on est en train de vivre. On est un petit pays qui est en train d'écrire une belle histoire, qui est réuni plus que jamais.
Puisque tout le monde ici garde en tête l'image de Christian Eriksen effondré sur le terrain lors du premier match, on doit se battre pour lui. C'est ce que dit Aun en se frottant les mains.
Ça a été vraiment difficile à vivre, oui. J'ai pleuré, tout le monde a pleuré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est heureux comme jamais. Et de voir ma famille comme ça, ça me fait un bien fou. Ça va au-delà du football, ce qui est en train de nous arriver. Et je pense que oui, nous sommes plus forts que jamais.
Il y a un mot écrit de toute façon partout ici, c'est « sammen », ça veut dire « ensemble » en danois. Un pays qui croit plus que jamais en sa belle étoile.
Sammen, ça veut dire ensemble en danois. Merci du tuyau, Vincent Serrano. La ferveur à Copenhague, évidemment. Le Danemark qualifié pour ses quarts de finale. Et puis, évidemment, vous le savez, demain, lundi, France-Suisse. 1500 supporters français sont attendus à Bucarest. Le stade de Bucarest qui, finalement, pourra accueillir près de 27 000 spectateurs. Au programme également ce soir, le défi européen des basketteuses françaises. Elles se sont qualifiées hier pour la finale de l'Euro en battant la Biélorussie. Et elles vont donc tenter de remporter leur troisième euro ce soir en finale contre la Serbie. Côté sport encore, à suivre cet après-midi, les sports mécaniques, la Formule 1, le Grand Prix de Styrie, c'est à 15h. Max Verstappen en pole position devant Lewis Hamilton. Pour Pierre Gasly, 6e place. Pour Esteban Ocon, 11e place. Et puis, toujours en sport mécanique, mais là, en moto, une heure plus tôt, 14h, début du Grand Prix des Pays-Bas. En pole, ce sera Maverick Vinales devant le français Fabio Quartararo. L'autre français, Johan Zarco, partira lui en 5e position.
RTL Midi.
Les images tournent depuis hier sur les réseaux sociaux des consommateurs de crack visés par des tirs de mortier lancés par des jeunes. La scène s'est déroulée dans le quartier de Stalingrad, au jardin des Halles, dans le 19e arrondissement de Paris. Le quartier et ce parc, notamment, sont des lieux de deal et de consommation et connaissent évidemment des tensions depuis de nombreuses semaines avec des habitants excédés. Mais voilà, Frédéric Francel, le porte-parole du collectif 19 qui regroupe les riverains, eh bien, estime que ce n'est pas la bonne solution.
C'est pas une bonne idée. C'est hyper dangereux parce qu'il y a plein de gens dans le parc, surtout samedi à 4h de l'après-midi. Enfin, franchement, là, ça, c'est pas sérieux. Mais tout le monde en a marre parce que ben, ces personnes qui sont dans le parc font du bruit, elles ruinent le parc totalement. Toutes ces personnes qui sont en errance et qui consomment de la drogue donc laissent des seringues un petit peu partout, laissent des pipes à crack un petit peu partout. Si on ne peut plus rentrer dans ce parc. Les toxicomanes, quoi, il faut vraiment les soigner. Les dealers, il faut les enfermer. Et les petits jeunes, il faut leur dire quoi, qu'on va leur, laisser leur faire un foot très prochainement, puisque dès le 30 juin, Madame Hidalgo s'est engagée.
Vous appelez les autorités à se mobiliser?
Ben oui, vraiment, en fait. Il nous faut vraiment une mobilisation forte pour que ce genre de choses n'arrive pas. C'est vraiment en fait juste l'exaspération en fait qui a mené à ce genre de choses-là.
Voilà, donc Frédéric Francel, le porte-parole du collectif 19, qui regroupe des riverains donc de ce 19e arrondissement du quartier Stalingrad. Il était avec Aurélie Valarié. Et puis c'est l'heure d'un premier bilan pour le grand oral du bac après une semaine. Vous savez, c'est une nouvelle épreuve inédite. Elle va d'ailleurs se poursuivre encore toute la semaine prochaine jusqu'au 2 juillet. Mais voilà, d'ores et déjà, les syndicats d'enseignants dénoncent des ratés, des couacs, des dysfonctionnements dans l'organisation de ce grand oral, Marie Guerrier.
C'est essentiellement lundi pour la mise en route qu'il y a eu des problèmes. Pas dans des proportions importantes, mais suffisamment pour susciter la colère des intéressés. Quelques élèves ou profs convoqués dans le mauvais lycée, des candidats reconvoqués ultérieurement, faute de jury présent. 7 élèves sur 16 000 à Paris, 42 sur 28 000 à Nantes, quelques dizaines à Créteil. Des oraux ont commencé en retard, voire très en retard, parce qu'il a fallu appeler des profs remplaçants pour pallier des absences ou pour modifier la composition de certains jurys. Il y a toujours des erreurs et des absences pour les oraux. Mais là, les convocations des enseignants sont arrivées tard, certaines au cours du week-end pour démarrer lundi matin. Ça laissait peu de temps pour se retourner. Sur fond de crise sanitaire, les services en charge des examens dans les rectorats devaient organiser des oraux d'une ampleur et d'une complexité inédite. 525 000 élèves à mettre devant des binômes de profs de spécialité. Le grand oral est forcément en mode rodage, avec des améliorations à prévoir l'année prochaine. Davantage d'anticipation, plaident les chefs d'établissement. Revoir la composition des jurys, disent les enseignants.
Voilà, le grand oral qui a forcément essuyé un peu les plâtres cette année. En tout cas, l'épreuve continue avec des convocations pour les élèves jusqu'au 2 juillet. Dans un instant, sur RTL, retour à cette édition spéciale élections régionales et départementales. On va retourner en Bretagne. On y était il y a quelques minutes pour le vélo. Eh bien, on va y retourner pour le scrutin. A tout de suite.
Vincent Parisot, RTL Midi. RTL Midi, édition spéciale élections régionales, Vincent Parisot.
Jusqu'à 13h, cette édition spéciale pour le deuxième tour des élections régionales et départementales. Je vous rappelle tout d'abord la participation à midi au niveau national, 12,66%. C'est quasiment identique, un très très léger rebond par rapport à la participation enregistrée à midi dimanche dernier pour le premier tour. Alors on était tout à l'heure en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le duel Muselier-Mariani, mais voilà, il y a des régions où l'issue est très incertaine avec beaucoup plus de candidats. Par exemple, en Bretagne, ils sont 5 en lice. Alors, on appelle ça, Marie-Bénédicte Thaler, une pentagulaire. Certains disent quinquangulaire. Je ne sais pas si on peut dire les deux.
Oui, écoutez, je pense que le nom officiel, c'est pentagulaire, mais vous faites comme vous voulez. Eh bien, écoutez, oui, ici, en Bretagne, la situation est assez ouverte. Alors, on va prendre le temps d'expliquer un petit peu. La Bretagne, ça a longtemps été le fief de Jean-Yves Le Drian, le ministre socialiste, jusqu'à ce qu'il choisisse Emmanuel Macron en 2017. Et en devenant ministre, Jean-Yves Le Drian s'est choisi comme successeur en Bretagne l'un de ses proches, Loïc Chesnais-Girard, restait socialiste, qui a gouverné avec le soutien de La République En Marche jusqu'en avril dernier. Mais comme la Bretagne avait très majoritairement voté Macron à la présidentielle et aux législatives suivantes, eh bien, les macronistes ont cru en leur bonne étoile et ils ont présenté leur propre liste emmenée par Thierry Burlot. Et puis voilà, dimanche dernier, cette bataille entre les héritiers politiques de Le Drian, eh bien, elle a tourné à l'avantage du socialiste président sortant avec 21% des voix. Il était largement en tête. Mais Quatre autres listes ont terminé entre 16 et 14 % l'ALR Isabelle Le Callennec, le marcheur Thierry Burlot, l'écologiste Claire Desmarpoirier et le Rassemblement national Gilles Pénel. Et toutes ces listes se sont maintenues, d'où une pentagulaire, effectivement. Alors, le marcheur Thierry Burlot et l'écologiste Claire Desmarpoirier espéraient chacun de son côté conclure un accord avec Loïc Chesnais-Girard. Mais il les a pris de court. Il a préféré s'allier avec une autre petite liste de sensibilité écolo, celle de Daniel Cueff, qui pouvait fusionner, mais pas se maintenir.
Merci.
On en est là, Ajoutez à ça l'incertitude sur la participation, parce que la Bretagne est d'ordinaire une région très civique. Elle ne s'est pas plus mobilisée que les autres dimanche dernier, mais on va voir. Bref, ce n'est pas joué, et il n'est pas exclu qu'on doive attendre jusqu'à vendredi prochain, jour de l'élection du président de région, pour savoir quelle majorité dirigera la Bretagne.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. C'est vrai que j'ai pris des notes et que j'ai un petit peu mal à la tête après toutes ces explications.
C'est compliqué.
En tout cas, j'ai bien compris qu'on aura peut-être pas le nom du prochain président de la région ce soir. Adélaïde Zulfi-Caspasic, justement, 5 candidats, une faible participation, ça veut dire que les pronostics sont particulièrement hasardeux. Je pense que les instituts de sondage doivent s'arracher les cheveux pour la Bretagne.
Effectivement, c'est une situation complexe parce que on sait que le mode de scrutin normalement, qui est celui des régionales, qui est un mode de scrutin sur liste proportionnelle, mais qui avec une prime majoritaire, permet normalement de garantir une espèce de, voilà, de stabilité avec une majorité nette. Là, avec 5 candidats en présence, on voit bien qu'à l'issue du scrutin ce soir, on aura du mal à voir quelle majorité peut se dessiner. Il y aura peut-être des jeux d'alliance ensuite au conseil régional.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute ce qu'on appelle le troisième tour, où là, alors là, les électeurs n'ont plus droit à la parole. Tout se passe, j'allais dire, un petit peu dans les couloirs.
Effectivement, c'est pour ça que votre Marie-Bénédicte Allaire parlait de possibilité de que ça dure jusqu'à vendredi. On voit en plus qu'il y a des écolos qui sont alliés avec le PS, il y a un écolo qui est allié avec le président sortant à l'ERM. Donc il y a toute une série d'incertitudes qui font que effectivement ce troisième tour s'annonce un peu serré et complexe et qu'on n'y verra pas clair a priori ce soir.
Incertitude donc pour la région Bretagne avec ses 5 candidats. Quelles sont les autres régions, Adélaïde, où le suspense est réel, où l'enjeu est important?
Alors, des régions, il y a un enjeu, il y en a plusieurs. On peut parler de la région Île-de-France, pardon, qui, oui, sur le papier, a priori, on a dit qu'elle était plutôt acquise à la présidente sortante, mais quand on fait le cumul des voix de la gauche au premier tour, on a un score qui équivaut quasiment celui de Valérie Pécresse. Donc, la question peut se poser de savoir si la gauche arrivera à performer ce soir. On a d'autres régions qui interpellent, qui sont toutes les régions. On a des alliances qui sont faites entre la gauche. Je pense au Pays de la Loire, je pense au Centre-Val de Loire. Et puis, on a aussi la région Hauts-de-France, mais voilà, il y a plusieurs régions en tout cas qui suscitent une certaine curiosité et on verra ce soir ce qui en sera.
Vous parliez de la région Île-de-France, c'est celle où on a le moins voté, mais c'est habituel. Parce que les bureaux de vote ferment plus tard, c'est pour ça?
Alors, à midi, effectivement, on a toujours une participation qui est très en deçà, parce que les bureaux de vote ferment à 20h et que les Parisiens, souvent, il y en a qui partent à la campagne, ils rentrent en fin de journée, ils votent jusqu'à 20h. Et puis, globalement, c'est quand même pas une région où le sens civique est le plus fort, hein, et c'est pas là que les électeurs, globalement, se mobilisent le plus.
Alors, vous parliez, Adélaïde, d'une autre région, j'allais dire, où les jeux ne sont pas faits, région à suspense, direction Orléans pour la région Centre-Val-de-Loire. Christian Panvert, bonjour. Ah, on l'a pas. Il est... Ah si. Christian Panvert, c'est une quadrangulaire, hein, donc avec la gauche et les écologistes ensemble.
Eh bien, ici, le scrutin se jouera entre 4 candidats. Lors des 3 dernières élections régionales, le second tour s'était soldé par une triangulaire. Mais cette fois, la droite et le centre n'ont pas réussi à s'entendre. Le MoDem, Marc Fesneau, le ministre du gouvernement, qui a totalisé 17% des suffrages, a décidé de se maintenir, faute d'accord avec Nicolas Forissier, candidat de l'Union de la droite et du centre, crédité de 19%. Lui aussi se maintient. À gauche, le président PS sortant, François Bonneau, est arrivé en tête avec 25%. Sa liste a fusionné avec celle d'Europe Écologie Les Verts, qui a obtenu 11%. François Bonneau est également soutenu par la France Insoumise. Encore en lice dans ce scrutin, le candidat du Rassemblement National, Alexandar Nikolić, il est arrivé deuxième avec 22% des voix. Alors pour être très précis, 1800 électeurs sont appelés aux urnes, moins d'un tiers d'entre eux se sont déplacés dimanche dernier. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Réponse ce soir à 20h.
Merci Christian Panvert pour la région Centre-Val-de-Loire à Orléans, région où la gauche et les écologistes marchent ensemble pour ce second tour. Ces alliances à géométrie variable, selon les régions, selon les personnes, ça aussi, ça peut perturber les électeurs, ça peut être l'une des explications de la faible participation?
Oui, tout à fait. Ça peut être une des clés de l'abstention. Vous l'avez dit, la gauche, dans certaines régions, fait alliance, dans d'autres pas. C'est le cas en Occitanie, par exemple. Et les électeurs peuvent se trouver un petit peu perdus, ne pas comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que cette année, par rapport à 2015, on a 59 listes en présente. On n'en avait que 46 en 2015. Donc, un grand morcellement et des situations complètement inédites. On a un seul duel, vous l'avez rappelé dans le journal. On en avait 6 en 2015. Et on a à l'inverse des configurations un petit peu abracadabrantesques, comme des quadrangulaires, il y en a 8, et même, vous l'avez dit, des pentagulaires, donc de quoi perdre aux électeurs dans un contexte où, de toute façon, c'est une élection qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt parce que les électeurs ont du mal à comprendre ce que fait la région. Donc ça ajoute encore plus d'incompréhension sur le scrutin.
Bon, en tout cas, pour tout comprendre, vous avez rendez-vous ce soir sur RTL. Avant 13h, on va vite faire un petit tour du côté de la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Je crois que vous avez une question, c'est cela, à me poser?
Non, pas du tout, Vincent. En fait, je voulais juste vous demander si vous vouliez le taux de participation de chacune des régions ou si vous préfériez que je vous fasse plutôt quelque chose de global, en fait. Mais je vais vous dire, en tout cas, que là, le score, c'est de 12,22%. C'est connu à midi, plus 0,44 points par rapport à la semaine dernière, mais très en dessous du taux de participation de 2015, qui s'élevait à 19,59%. Et pour rentrer dans le détail des régions, c'est donc en Corse qu'on s'est le plus déplacé, hein, 24,87%. Et en Île-de-France, où les bureaux ferment plus tard, qu'il y a le moins de votes, seulement 8,59% des électeurs franciliens qui se sont déplacés ce matin. Et maintenant, Vincent, à vous de me dire si vous voulez la suite de tous les résultats.
Non, bah écoutez, ce qu'on va faire de toute façon, c'est vous retrouver tout au long de la journée sur RTL. Évidemment, à 18h, tapante, vous serez avec nous pour la nouvelle édition spéciale, deuxième tour des élections régionales. On aura le taux de participation à 17h, et puis à partir de 19h, rendez-vous avec le club Jalabert tout d'abord pour parler cyclisme et la soirée électorale à 19h autour de Thomas Soto. Merci beaucoup. On vous retrouve donc ce soir à 18h avec Adélaïde Sulfikarpazic de BVA, tous nos correspondants sur RTL. Dans un instant, il sera 13h.